Merci. Donc, le travail que je vais vous présenter a été pensé en 2010 et il a pu se nourrir au cours de l'année écoulée de plusieurs publications. Le débat auquel répond le colloque étant venu plusieurs fois dans des revues, dont le récent numéro du débat, dans lequel Compagnon écrit que l'inflation récente des publications et débats de tout genre sur les rapports de l'histoire et de la littérature a de quoi donner le vertige. Donc, ce travail avait pour cadre une équipe de 3 enseignantes de lettres en Savoie, en lycée, que je coordonne déjà dans un autre travail depuis 3 ans, un travail de recherche sur l'écriture mené par Liane Arpé, par feu Liane Arpé. Et elles ont eu justement l'occasion au fil du temps d'exprimer leur souci de renouvellement de pratiques en quelque sorte trop rodées de lecture analytique à l'occasion de ce travail sur l'écriture. Donc je vous expliquerai un petit peu les points de départ théoriques et didactiques de l'enquête, puis je préciserai son cadre et les données qu'on a pu collecter avant d'en préciser certains résultats. Alors, est-ce qu'il y a un bouton ? Non. Peut-être qu'il faut monter le volume. Vous m'entendez ? Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc au point de départ, on peut rappeler la dialectique analysée par Ricoeur qui fait que, nonobstant les écarts entre les deux domaines, on peut lire l'histoire comme un récit, mais aussi qu'on peut lire les fictions narratives comme contribuant à une écriture de l'histoire. Ricoeur conclut le second tome de Temps et récit ainsi. Notre thèse ne sépare pas la prétention à la vérité du récit de fiction de celle du récit d'histoire. Elle s'efforce de comprendre l'une en fonction de l'autre. Et on rappellera que cette dialectique est posée pour préciser les spécificités du temps humain. Ce qui conduit Ricoeur à préciser également, c'est aux œuvres de fiction que nous devons l'élargissement de notre horizon d'existence. À partir de là, on peut spécifier davantage les interactions entre histoire et littérature, en s'appuyant d'une part sur les travaux de Mona Ozouf du côté de l'histoire, et pour les analyses théoriques de la fiction et du genre romanesque, sur les travaux de Thomas Pavel. Dans Les aveux du roman, l'historienne aborde la littérature romanesque du 19e comme un observatoire de la guerre de 100 ans entre Ancien Régime et Révolution. Et puis, elle souligne aussi dans d'autres écrits la différence majeure entre le travail du romancier et celui de l'historien. Lorsqu'elle précise, un grand romancier est celui qui approfondit le mystère de la condition humaine, qui tient la vie pour plus compliquée et plus profonde qu'on ne le croit, et laisse son lecteur dans l'incapacité de conclure face à une énigme persistante. Quant à Pavel, il s'attache à définir les univers de la fiction selon un double principe de distance et de pertinence. Et pour la pertinence de la fiction, il précise qu'elle ne se borne pas à ses conclusions logiques ou à ses généralisations morales, mais que les textes de fiction attirent l'intérêt de leur public en mettant à sa disposition des représentations de périodes historiques révolues et de comportements peu familiers. Pour la pensée du roman, il affirme avec force que pour saisir et apprécier le sens d'un roman, il ne suffit pas de considérer la technique littéraire utilisée par son auteur. L'intérêt de l'œuvre vient de l'hypothèse substantielle sur la nature et l'organisation du monde qu'elle propose. Donc, une fois rappelés ces deux pendants théoriques, il m'a semblé qu'on rencontrait en fait là un certain nombre de préoccupations actuelles en didactique de la littérature, qu'il n'y avait pas de solution de continuité radicale entre l'un et l'autre. En effet, plusieurs propositions de recherche ont été explorées qui peuvent faire écho à la quête de sens ou au questionnement existentiel que je viens de relever chez ces théoriciens. Les travaux de Michel Petit, les travaux anthropologiques, démontrent l'importance d'un droit à la métaphore, d'une lecture réparatrice face aux expériences de grande douleur. Et elle insiste plus particulièrement sur l'antinomie entre cette littérature comme art de vivre et celle qu'on enseigne au lycée plus particulièrement. En second lieu, les recherches sur le sujet lecteur, autour de Gérard Langlade notamment, mettent en évidence la façon originale dont un sujet habite une œuvre, dont il fictionnalise ce qu'il lit, comment il émet des jugements moraux et recherche la vraisemblance du texte, par exemple. En dernier lieu, l'ouvrage récent de Brigitte Louichon intitulé « La littérature après coup » insiste sur l'importance du souvenir de lecture dans les pratiques des lecteurs réels. Et de ce fait, elle fait la proposition que la classe pourrait devenir un lieu créateur de ses souvenirs de lecture. Donc c'est à partir de cela, excusez-moi, c'était les diapositives, que je me suis intéressée aux enjeux des regards croisés entre littérature et histoire en termes de reconfiguration de la lecture littéraire au lycée. Ces échanges, s'ils peuvent avoir une réalité, permettent-ils aux enseignants et aux élèves d'entrer dans une lecture littéraire reconfigurée? Ceci aboutit à trois hypothèses. Est-ce que si on pratique donc ces regards croisés, on donnerait une alternative aux pratiques usuelles de lecture analytique? Est-ce qu'on faciliterait la lecture de classiques prescrites par les programmes, peut-être encore davantage par les nouveaux programmes de lycée, mais qui peuvent être jugés impossibles à aborder soit par les élèves, soit par les enseignants? Et est-ce qu'on viendrait nourrir ce faisant des souvenirs de lecture peut-être plus marquants? Donc le dispositif qui a été mis en œuvre concerne trois classes de seconde dans deux lycées de Savoie. Pour le dire très très vite, deux classes dans un lycée de montagne avec beaucoup de garçons et des premières STI, et une classe de seconde dans un lycée qui recrute sur le collège ZEP de Chambéry, avec des enseignements d'exploration qui conduisent davantage les élèves vers des premières générales. Mais dans ce contexte-là. Et ce sont des classes... Au global, ça fait un effectif assez mixte, finalement. Même s'il y a plus de garçons dans une des secondes. Donc là, je vais aller peut-être un petit peu vite. Excusez-moi. Je voulais quand même vous préciser aussi que j'avais fourni donc aux enseignantes un cadre de travail. Je leur ai demandé, à partir d'un corpus d'extraits de romans du 19e qu'elles choisiraient, de chercher à envisager le discours romanesque comme le lieu d'une interprétation littéraire du passé. Donc le lieu où l'histoire s'écrit avec les moyens paradoxaux de la fiction. Ça, je leur ai donné en juin, fin juin dernier. Et ça se situait donc à la croisée entre les anciens et les nouveaux programmes de seconde, puisqu'on est passé d'un objet d'étude, le récit roman nouvelle, qui avait pour entrée principale l'étude des genres et comme entrée complémentaire à l'histoire littéraire, à un objet d'étude sur le roman et la nouvelle au 19e, réalisme et naturalisme, qui met davantage l'accent sur l'entrée par l'histoire littéraire avant l'entrée par les genres. Alors, les données qui ont pu être collectées sont trois séquences de français. Je n'avais pas imposé des séquences. Elle m'avait dit au départ, est-ce qu'on peut faire un sujet type bac? J'avais dit, vous faites ce que vous voulez avec la consigne. Mais finalement, elles ont fait trois séquences en seconde. Un questionnaire qui a été proposé, que je vous montrerai à l'ensemble des élèves des trois classes, et des copies qui ont servi à évaluer l'apprentissage de fin de séquence. A posteriori, les enseignantes ont elles aussi renseigné un questionnaire et les élèves ont repassé le même questionnaire, même si je n'en ai pas récolté autant au retour. Alors, les élèves, je leur avais demandé, vous arrive-t-il de lire chez vous des textes littéraires? S'agit-il de textes donnés par votre enseignante en lecture cursive? Vous arrive-t-il de lire des romans que l'on peut qualifier de classiques? Êtes-vous intéressé par l'histoire? Et pensez-vous que le fait de lire des œuvres littéraires, y compris classiques, qui comportent une dimension historique, peut constituer une motivation importante pour votre lecture? Quant aux enseignantes, je leur ai demandé donc pourquoi et comment traiter l'histoire en cours de français, comment elles avaient reçu la proposition, comment elles ont élaboré leur séquence, j'y reviendrai, dans quelle mesure elles la trouvent liée à l'enseignement de l'histoire, est-ce qu'elles ont pris en compte le changement de programme et comment cela s'est déroulé de leur point de vue. Pour les élèves, ils se déclarent le plus souvent comme lecteurs de littérature à la maison lorsque la question leur est posée de manière générale, mais c'est pas unanime non plus, hein, 44 sur 75. Ils mentionnent soit des formes littéraires, les mangas, la bande dessinée, le fantastique, soit des auteurs assez variés qui vont de Pierre Bottero à Frison Roche. En revanche, lorsqu'on leur demande plus précisément s'ils lisent des classiques, alors là c'est franchement négatif pour 36 sur 75. Et quand ils en citent, ce sont soit des classiques du 19e en majorité, Les Misérables, Orla, Germinal, ou des œuvres qu'Annie Rouxel dit en voie de classicisation, comme Dix Petits Nègres et Harry Potter, qui semble être en train de devenir un classique à l'entrée en seconde. Il y a pour l'enseignement de l'histoire, un certain nombre d'élèves se déclarent un peu, beaucoup, très fortement intéressés, 26 sur 75, mais ils préfèrent détailler les périodes et dire quelle est leur période préférée dans l'enseignement de l'histoire, ce qui est une posture d'adolescent, je pense. 9 d'entre eux affirment leur désintérêt pour l'histoire, et certains préfèrent les livres ou les films comme accès à l'histoire plutôt que l'enseignement dispensé en classe, et le précisent sans que ça leur ait été demandé. Enfin, pour l'idée que la dimension historique pourrait motiver la lecture d'œuvres littéraires, y compris classiques, alors 14 élèves répondent franchement oui, mais le plus souvent on retrouve des réponses nuancées selon la période historique ou selon des arguments scolaires du type que ça va développer leur culture générale, donc que ça peut toujours servir de faire ces lectures. Alors, les enseignantes, même si le questionnaire leur a été proposé a posteriori, ont répondu de manière à ce qu'on envisage ce qu'elles pensaient a priori aussi. Donc, à la question de savoir pourquoi et comment traiter l'histoire en cours de français, elles répondent classiquement pour contextualiser les œuvres. Mais il y en a une qui se lance quand même, ça j'ai trouvé ça intéressant, dans une typologie des écrivains, en distinguant des auteurs historiens comme Michelet et d'autres associés en tant qu'hommes et écrivains à un fait historique et en revenant sur Zola et l'affaire Dreyfus ou sur Voltaire par exemple. Alors, elles ont reçu de trois manières différentes la proposition. L'une dit que c'est l'occasion de travailler sur la commune, ce qu'elle voulait faire depuis longtemps et qu'elle n'osait pas faire. Une autre envisage plutôt un souci d'histoire littéraire, de travailler sur l'histoire du genre romanesque. Et la dernière, une préoccupation didactique, mettre réellement au cœur d'une séquence l'histoire et non l'aborder comme je le fais habituellement, de façon annexe et rapide. Pour bâtir leur séquence, elles sont parties de textes littéraires qu'elles connaissaient ou qu'elles ont recherchés avant de chercher les renseignements historiques ou des annexes iconographiques. Elles signalent toutes les trois à peu près la même démarche. Alors, les séquences proposées maintenant. On a une séquence sur Waterloo, intitulée Waterloo Morne-Plaine, une sur la guerre de 1870 et une sur la commune. Les corpus sur Waterloo sont tout à fait attendus, hein, Victor Hugo, le fossé d'Ohain, le moment où Waterloo s'engage vers la défaite avec un grand souffle épique, et Fabrice, fort peu héros en ce moment, à Waterloo. Par contre, on voit apparaître Zola, deux fois la débâcle, qui n'est pas le livre de Zola le plus souvent étudié au lycée, et même un texte de Darien, un extrait de Baedeker. Donc on a un certain renouvellement des corpus dans la séquence sur la commune ou sur la guerre de 1870. L'ensemble des trois séquences propose classiquement aussi, je dirais, l'étude de peinture parallèlement à celle des textes. Je relèverai quand même un tableau de Neuville, attaque par le feu d'une maison barricadée, que l'enseignante qui traite de la guerre de 1870 choisit parce qu'il en existe un commentaire dans les salons de Zola qu'elle fournit aussi aux élèves. L'enseignante qui a travaillé sur la commune a choisi un film muet russe, La Nouvelle Babylone, sur la commune, et un essai contemporain dont elle a donné un extrait aux élèves, Les écrivains contre la commune, de Paul Litsky, qui explique pourquoi si peu de romanciers ont défendu la commune. Donc là, on voit apparaître dans les corpus des choses un peu renouvelées par rapport aux usages du lycée. Pour les lectures cursives, on a à la fois des choses qui cherchent à immerger les élèves dans l'histoire par la littérature du 19e siècle, comme le colonel Chabert, et puis d'autres œuvres qui tirent ces événements vers leur actualité éditoriale, avec la proposition de la bande dessinée Le cri du peuple de Tardy et Vautrin, par exemple. Alors, les regards croisés entre littérature et histoire me semblent se repérer à trois niveaux. Les problématiques, par exemple, la guerre de 1870, l'enseignante se demande comment le récit au 19e utilise l'anecdotique, l'humain pour toucher le lecteur et le confronter à l'histoire, mais aussi les démarches de contextualisation et de lecture analytique. Par deux fois, les enseignantes ont fait intervenir un enseignant d'histoire après avoir fait un travail de littérature, c'est-à-dire qu'elles ont étudié le texte, il s'agissait du texte de Zola, où elles ont travaillé sur le mythe napoléonien en littérature et en peinture avant de faire intervenir l'enseignant d'histoire. Et au niveau des lectures analytiques, on voit apparaître aussi des choses un petit peu croisées. Par exemple, l'étude des textes comparés d'Hugo et de Stendhal sur Waterloo s'accompagne d'un travail sur les noms propres et sur la carte de la bataille, mais dans un second temps, afin d'élaborer une réflexion sur les faits de réel. Alors, pour les sujets d'écriture, j'en mentionnerai deux. Un corpus avec un extrait de l'insurgé de Valès, où Vingras commente avec ferveur son article paru dans Le Cri du Peuple et la célèbre mort de Gavroche. Et j'ai retenu en particulier la deuxième question qui me paraissait intéressante, excusez-moi pour la ponctuation. Quel texte vous semble le plus probant pour évoquer ce que peut être une révolution, justifiez-vous ? Le fait qu'on sollicite comme ça le jugement des élèves m'a paru une attention renouvelée au sens des textes intéressante à remarquer. C'est pas toujours le type de question sur le corpus qu'on peut remarquer. Pour l'écriture d'invention, j'ai relevé ce sujet-là, écrire une scène d'affrontement entre le peuple et les représentants du pouvoir lors de la révolution de 48, dont les élèves devront mettre en évidence la violence tout en réinvestissant leur recherche historique et en adjoignant à leur texte des notes de bas de page qui explicitent les allusions faites dans le texte. Il y a donc le souci de mettre en jeu une activité fictionnalisante des élèves devenus sujets scripteurs sur fond de connaissances historiques collectées, voire d'un souci carrément plus méthodologique, dans le cas des notes de bas de page qui déplacent le statut de l'écrit ou ouvrent la voie à une relecture plus historique de la fiction. Alors, les impacts à court et moyen terme de ces travaux. Les 10 copies que j'ai pu examiner, donc pour le sujet d'invention et pour le corpus. Pour le sujet d'invention, il y a une ligne de partage très nette entre les élèves qui arrivent à adopter un point de vue sur les événements, qui arrivent à créer un personnage narrateur sur les événements de 48, et ceux qui ne font qu'une litanie d'événements, de micro-événements mis bout à bout. Alors, quand ils arrivent à instituer un point de vue, ça donne. On était le 22 juin 1848. J'étais un fervent défenseur du peuple, un partisan de la démocratie, totalement opposé à la commission et à son gouvernement. On a même un réseau de personnages dans une copie. Nous sommes le 23 juin 48. Dehors, c'est la cohue. Ce matin, mon ami Géphi qui est venu me chercher dans mon appartement apparaîtra aussi la petite fille du narrateur. La violence des événements peut s'associer à des données atmosphériques. Des cordes d'eau se mettaient à tomber, nettoyant les visages meurtris. Et le récit peut créer un effet de dramatisation en recourant à des phrases brèves, excusez-moi. Je tue, un coup de pioche sur le crâne et voilà, je suis un assassin. Les mêmes éléments historiques se retrouvent en fait dans les textes qui réussissent à animer la fiction et dans ceux qui n'y arrivent pas. On le voit avec l'histoire de l'archevêque d'Affre. Pour une copie qui me semble fonctionner très modérément, on lit « Monseigneur Affre s'avança sur le champ de bataille sans armes et muni d'un drapeau. Il voulait que la guerre cesse. » Alors que dans une copie où le récit parvient à fonctionner du point de vue fictionnel, on découvre « Je reconnais alors l'archevêque de Paris qui prononce des paroles que je n'entends pas » et cette copie arrive à une certaine distance aux événements. Le personnage principal assiste aux événements, mais un peu impuissant, comme Fabrice ou Frédéric Moreau. Dans le cas de l'étude du corpus, quand on leur demande quel est le texte qui leur semble le plus illustré, ce qui est une révolution, les élèves peuvent s'appuyer sur des éléments d'analyse littéraire. Souvent, ils convoquent leurs émotions, ça m'a paru intéressant. Et le pathétique leur sert à justifier soit le choix de Gavroche, soit le choix de Jacques Vingras. Pour finir, on a un élève qui fait une mini-dissertation. On voit que c'est le parangon de l'élève en français en seconde qui balance entre les deux textes. Mais finalement, il s'arrête sur l'émotion esthétique suscitée par une phrase d'Hugo qui provoque sa fascination, dit-il. La phrase, c'est « Le spectacle était épouvantable et charmant ». Et il commente « Cela me paraît confus, mais d'une telle beauté ». Donc, il choisit Victor Hugo, in fine. Voilà. Donc, on a bien un tissage possible dans ces copies entre fiction et histoire de la part des élèves qui ont, au moins pour une partie d'entre eux, investi les textes étudiés et le dialogue instauré entre littérature et histoire. Alors, quand on réinterroge ces élèves quelques mois plus tard, je n'ai plus que 59 questionnaires contre 75, c'est la fin de l'année de seconde avec ces aléas, mais ils déclarent toujours lire chez eux des textes littéraires. De manière plus systématique, ils les lient aux textes littéraires lus avec leurs professeurs pendant l'année de seconde. Leurs avis sur les classiques sont beaucoup plus affinés, je dirais, beaucoup plus précisés. Donc soit ils les rejettent en disant pourquoi. Alors, des choses classiques, hein, l'ennui, le style, la teneur des récits. Un élève précise qu'il préfère les lire en classe parce qu'ils sont tellement complexes qu'il vaut mieux que le professeur apporte ses analyses pour les comprendre. Mais on a davantage de titres et d'auteurs et ce ne sont plus les mêmes. On voit apparaître les lectures de l'année de seconde avec Balzac, Léo de Hurlevent, Frankenstein. De surcroît, 23 élèves sur 59 déclarent maintenant s'intéresser à l'histoire et donnent des justifications, ce qui n'était pas le cas à l'issue de la troisième. Donc pour comprendre le passé le plus souvent, pour comprendre ce qui s'est passé avant qu'on soit là, voire pour tenir une conversation. Et oui, l'histoire, ça sert aussi à tenir des conversations. Enfin, ce qui m'a le plus intéressé, ce sont les réponses à la question concernant la dimension historique comme motivation à la lecture, y compris de classiques. Et là aussi, il y a une évolution. 36 élèves sur 59 répondent de manière positive, oui, ça peut les motiver pour lire, et 14 d'entre eux tiennent à exprimer l'intérêt qu'il y aurait à apprendre l'histoire au moyen de la fiction. C'est plus un moyen de culture générale, c'est vraiment un moyen d'apprendre l'histoire, ce n'est plus formulé de la même manière. Les manières de lire ou de ne pas lire font l'objet dans cette question de commentaires également plus affirmés. On relève les craintes de certains élèves qui redoutent de ne pas arriver à lire ce genre de livre par ignorance ou par manque d'esprit critique. Et d'autres qui affirment apprécier suivre les aventures d'un héros et goûter une bonne histoire tout en appréciant la dimension historique. Les commentaires vont jusqu'à une analyse dans un cas de la dimension historique, une analyse très précise de la dimension historique de Germinal, ou un élève qui relève l'intérêt du travail entre littérature et histoire autour de Napoléon tel qu'il a été établi dans la séquence sur Waterloo. Les enseignantes sont beaucoup plus nuancées que les élèves. Seule l'une d'entre elles trouve que les élèves se sont un peu plus intéressés que d'habitude. Mais deux d'entre elles affirment qu'elles se sont un peu plus intéressées à leur travail que d'habitude. Quant aux enjeux de ce type de démarche, alors on a des réponses très classiques sur les valeurs de l'interdisciplinarité. Mais il y en a une qui quand même prend la précaution de rappeler que le texte littéraire ne doit pas devenir un prétexte. Et une qui conclut de manière un peu plus engagée et un peu plus politique. Conclusion. Par rapport donc à la reconfiguration possible de la lecture littéraire par ces regards croisés entre littérature et histoire, ce que je peux en dire à partir de cette étude, c'est que la démarche offre des pistes alternatives aux pratiques usuelles de lecture analytique. Je suis allée vite, mais dans le détail donc des séquences, on voit des travaux qui ne se voient pas dans les schémas classiques de lecture analytique. Hein. Sortir la carte de Waterloo, ça se fait pas tous les jours quand on étudie un chapitre de Victor Hugo. Et d'ailleurs, ce n'est pas le chapitre des Misérables qu'on étudie habituellement en seconde. Donc de ce fait, la lecture des textes classiques prescrites par les programmes mais qui peuvent être jugés impossibles à aborder se trouve comme facilitée, comme l'attestent les corpus des séquences et la manière aussi dont les élèves ont investi les sujets d'écriture à la croisée des deux disciplines. Pour la question des souvenirs de lecture, d'une part, la réponse peut être plus modeste. Oui, les élèves ont fait évoluer leur réponse à la dernière question au fil du temps, mais ils ne citent pas beaucoup de titres d'œuvres littéraires ayant une dimension historique, donc je préfère rester prudente. Il me semble qu'il y a une évolution si on la pose autrement, si on envisage le souvenir de lecture plus largement, comme un espace qui peut être investi par le sujet lecteur conscient de ses pratiques. Alors, l'évolution des réponses à la dernière question, à la question sur les classiques et à la question sur les œuvres qui font interagir histoire et fiction, manifeste une évolution nette au fil de l'année de seconde, puisque c'est un point de vue de lecteur qui se construit plus que des références culturelles à des œuvres qui feraient interagir littérature et histoire. Voilà, je vous remercie.
Oui. Donc, si vous avez quelques questions pour Gerson Pizzolo, c'est le moment de poser.
Alors, je ne fuis pas, hein, j'ai un bébé de 3 semaines et là, je suis déjà dans le fichier rouge de la DAS. Donc. Oui.
Vous n'avez pas du tout travaillé avec vos collègues sur le choix du corpus.
Non, je les ai laissés volontairement libres. Alors pour la commune, donc c'était celle qui voulait travailler sur la commune depuis longtemps et ça lui a ouvert une porte. La guerre de 70, elle était d'abord partie sur la révolution de 48, c'est d'ailleurs elle qui a donné ce sujet-là, et puis elle trouvait qu'elle n'avait pas les textes qui lui convenaient et que ce qu'elle a trouvé l'intéressait sur la guerre de 70. Et l'autre, elle a réinvesti un sujet d'agrégation interne très clairement. Donc des raisons très très différentes.
Oui, des raisons, oui, mais...
Oui, je pense que, en tout cas pour, alors pour le corpus sur Waterloo, oui, ça lui paraissait. Pour les autres, non, il y avait plutôt un effet de, je comprends ce que vous voulez dire, il y a plutôt un effet de collection qu'elles ont fait autour du sujet, oui.
Pas de vraie réflexion.
Non.
Sur, du coup, la conception de l'histoire qui était en jeu dans ce qu'elle construisait.
Non,
là.
Sauf sur Waterloo.
Sauf sur Waterloo.
Oui, sauf sur Waterloo. Et pourtant, c'est celle qui a choisi par rapport au sujet classique, mais voilà, là oui, il y avait une réflexion. Peut-être dans un cours, je ne sais pas, mais voilà.
Oui, parce que c'est
Oui, je l'ai le détail des séances. Mais par contre, elles ont eu souci, oui, d'un balancement. Et il me semble que par rapport à des séquences de lycée telles qu'on peut les voir et des séances telles qu'on peut les voir défiler, les lectures analytiques ne sont pas construites de la même manière. Et que le fait que le professeur d'histoire vienne en cours de français pour relire des textes, ça, c'est aussi assez inusité au lycée.
Est-ce qu'elles ont dit avoir rencontré des difficultés ?
Oui. Alors, parfois pour faire venir le professeur d'histoire, celle qui a fait la séquence sur Waterloo est très très négative sur les résultats. Moi, je suis pas forcément d'accord avec elle par rapport à ce que disent les élèves, mais elle a l'impression qu'elle n'est pas arrivée à les faire lire, que tout a échoué. Voilà. Et les autres disent plutôt que c'est un peu comme d'habitude. Alors, celle qui a fait la commune dit qu'elle a rencontré des difficultés à susciter l'intérêt des élèves pour la condition ouvrière au 19e siècle. Non, c'est en ville, pas loin d'une ZEP. Voilà. Voilà, c'est ce genre de difficulté qu'elle signale.
D'autres questions ? Juste sur le questionnaire final pour les élèves. Il est juste après la séquence ?
Non, il est beaucoup. C'est pour ça que je l'ai dit à plus long terme. La séquence, ça, je ne l'ai pas dit. La séquence, c'était en gros la deuxième de l'année. Et le questionnaire, ils l'ont passé au mois de mai ou d'avril. Hein. Ah, donc, il est vraiment... Il y a tout l'ensemble de l'année qui a déroulé, oui.
Pour les premières questions,
oui. Oui, oui. D'où l'évolution des réponses.
Est-ce qu'elles font un
petit peu
quand elles ont dit
Alors, est-ce qu'elles ont un petit peu approfondi Oui. Oui. Par exemple, le fait de chercher, ça les a motivées. Le fait de ne pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire de ne pas faire une sorte de contextualisation prétexte parce qu'il faut la faire à toute vitesse, ça leur a plu aussi. Elles ont l'impression d'une routine qui s'est interrompue, en fait. Moi, c'est le sentiment que ça me donnait... Routine dont par ailleurs elle dénonce les effets pervers. Ce sont des enseignantes qui ont bien conscience qu'elles sont arrivées au bout de quelque chose dans l'enseignement du français tel qu'il se pratique au lycée et que il faut trouver des alternatives. Donc c'est par rapport à ça leur intérêt. Oui. Oui, c'est parce que j'avais pas le temps d'analyser. Il y avait la rencontre entre Fabrice et Napoléon à Waterloo, écrite d'abord sans document historique, avant l'intervention du prof d'histoire, à partir de lecture de texte et d'observation de peinture. Une sorte de bain, écrire la rencontre et après le professeur d'histoire intervient et on réécrit. Et il y avait une initiation aux commentaires donc sur ce texte de Waterloo, mais ça ne donne pas grand-chose, ça donne des choses très très classiques de relevé, de procédé, mais les élèves n'arrivent pas à prendre position, à interpréter ce qu'ils arrivent à faire sur le corpus de Vallès et des Misérables. C'est pour ça que j'ai retenu plutôt la question sur le corpus. Enfin, très politique, plus politique, j'ai trouvé. Oui, c'est celle qui a travaillé sur la commune.
Déjà, c'est la choisie, ça, c'est qu'elle a quand même
un petit peu. Oui, un petit peu. Je l'avais relevé, son commentaire. Qu'est-ce qu'elle avait dit ? Alors, il faut que je vous le retrouve. La littérature n'est compréhensible et intéressante que si elle est lue, analysée à la lumière de ce que traversent les sociétés. Elle n'est pas coupée de la réalité de ses changements, de ses bouleversements, de ses aspirations, du regard des hommes qui ont créé ses œuvres sur le monde. Mais c'est la seule qui écrit quelque chose comme ça. Oui, c'est pour ça que ça m'a frappée.
Bien, je vous propose de continuer.
Merci.
On va laisser partir.
Merci.
Je t'en prie. Qui enseigne à l'université Bernard Lyon 1, précisément dans le cadre de l'UFM, qui est chercheuse dans l'équipe de l'UFM Lyon 1, ainsi que dans l'équipe de passage 20-21 à Lyon 2.